Bonjour, bonsoir et bienvenue sur J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire de Syllabe. Ici, on aime se faire déborder par nos piles à lire, dépoussiérer la littérature en laissant dans leur caveau les vieux pontes et on leur préfère leurs sœurs oubliées dans l'ombre. On met en avant des langues vivantes et contemporaines, on partage des récits qui nous donnent des horizons d'espérance. Et comme il y a quelques semaines, nous étions avec Julie et Marilyn pour une émission nommée Bat Eater et Lasagne, on parlait du thriller Bat Eater and Overnight for Cora Zeng de Kylie Baker et du roman SF Foodistan de Katie Stewart. Et bah, il faut bien dire que ça nous avait pas mal plu parce que ces œuvres, elles abordaient d'une certaine façon des imaginaires qui bousculaient nos petites cases et qui questionnaient les a priori. On avait bien envie de continuer sur cette lancée, n'est-ce pas Julie?
Et ouais, et du coup, j'ai une fois de plus une œuvre d'imaginaire où pareil, ça va peut-être bousculer un peu les codes de l'imaginaire tels que écrits par des auteurs masculins, blancs, etc.
Et moi, pour ma part, quand tu m'as parlé un peu de ce livre coup de cœur dont tu avais envie de parler, j'ai trouvé une vieille BD, enfin pas si vieille que ça parce qu'elle n'existe que depuis un an, mais ce qui m'a interpellée, c'est d'abord la question de l'amour qui est aussi importante dans ton œuvre à toi. Et en la relisant pour préparer cette émission, je me suis rendu compte que oui, ça a bousculé 2-3 schémas narratifs en changeant un peu de perspective. Donc on va découvrir tout ça, mais avant ça, petit agenda culturel.
Nietzsche a dit...
L'édito tu écouteras, jeune padawan.
Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire sur Rennes ces jours-ci? Il y a par exemple la 10e édition du festival du cinéma documentaire Vrai de Vrai qui se jouera du 24 au 26 avril. Organisé par Comptoir du Doc avec de nombreux autres partenaires, cet événement est intégralement gratuit. Au programme des temps professionnels, workshops, laboratoires d'écriture, ateliers, rencontres autour du cinéma en région, mais également des projections qui auront lieu au TNB. Il y aura également un peu dans les murs, à la librairie Comment Dire par exemple. Ça sera dès demain, soit le 21 avril, la librairie spécialisée en sciences humaines recevra Claire Richard en compagnie de Victoire Tuyon. La première vient présenter son livre Pardonner à nos mères, la seconde présentera la maison d'édition Les Renversantes qui porte cet ouvrage. Si vous souhaitez y assister, ça commencera à 18h30. Mais ce week-end, il y a aussi Ouest Hurlant, le festival des cultures de l'imaginaire devenu un incontournable sur Rennes. Car parfois, il n'y a rien de tel que déformer la réalité, travestir le réel, pour mieux le comprendre et s'en saisir. Ça se passera au théâtre de la Paillette rue Louguillou les 25 et 26 avril, et l'entrée y sera aussi libre et gratuite. Le programme est vraiment ambitieux, avec moult conférences, animations, spectacles, masterclass et ateliers, sans oublier les projections de courts-métrages. Dur d'être exhaustif tellement la programmation est généreuse, je me limite donc à 3 mises en lumière en conférences et spectacles. Côté spectacle, j'avais envie de m'attarder sur ce qui va, j'espère, devenir un rendez-vous immanquable pour les prochaines éditions. Le samedi soir à 20h30 aura lieu le tout premier drag show Drag et Dragon, où vont performer Evaporé, Maya Doll, Evangelion, Eradis, Scarlett, Polichinelle et Banshee. Pouf, que de monde! Ce spectacle est accessible aux personnes sourdes et malentendantes et est adapté à un public âgé de 15 ans et plus. On a la chance à Rennes d'avoir une sadrague vraiment très vivante et flamboyante, n'attendez pas le mois de juin pour aller les voir. Côté conférence, attardons-nous sur celle du dimanche qui commencera à 14h. L'intitulé est le suivant. Quand les mots ne suffisent plus, la révolte? Pour en discuter, seront réunis sur la scène du théâtre de la Paillette Estelle Faye, Gaëlle Aymon, H underscore, Alice Carabédian et Hugo Aurin. Autrement dit, nous aurons les regards croisés d'auteuristes de différents genres, comme Estelle Faye et Gaëlle Aymon, mais aussi de philosophes avec Alice Carabédian, d'historiens avec Hugo Aurin, spécialisé en représentation fictionnelle des révolutions, et enfin H underscore, dont la présence me réjouit particulièrement, car elle représente une expertise d'ordinaire moins légitime, un peu plus méprisée, parce qu'elle est créatrice de contenu, notamment sur YouTube, où elle donne à voir la culture sous l'angle des luttes anticapitalistes, féministes, LGBTI et anticoloniales. Si jamais, pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas venir sur place, c'est pas grave, parce qu'il y a une partie de la programmation qui se déroule en ligne sur Twitch. Par exemple, le samedi à 11h, rencontre avec l'autrice Taous Merakchi, spécialisée en culture monstrueuse et horrifique, ou encore le dimanche à 14h, la discussion qui promet d'être bien animée avec Betty Piccioli, Chimène Pecel et Moustique qui vont discuter de leurs avis sur la seconde saison de la série live Action One Piece. Voilà, ça vous fait un bel agenda pour la semaine qui vient, et maintenant sans plus tarder, on passe à la chronique de Julie.
Merci, ça donne envie, ces événements, ça donne.
Alors moi, aujourd'hui, je vais encore vous parler de romans anglophones qui n'ont pas été traduits en français et j'en suis vraiment fort navrée. Mais en même temps, je suis aussi fort ravie de vous parler de Aisling Brophy. Aisling Brophy, c'est une autrice non-binaire. Dans sa langue, donc qui est l'anglais, Yalu utilise les pronoms they, them et she, her qu'elle alterne. Donc pour parler de lui en français, je vais tenter d'alterner Yel et elle. Donc Aisling Brophy, c'est l'autrice de deux romans young adult. Le premier s'intitule How to Succeed in Witchcraft et le second Spells to Forget Us. Les points communs entre les deux romans, c'est des histoires d'amour entre ados noirs et queer dans les États-Unis actuels, mais c'est pas vraiment les États-Unis actuels parce que c'est des États-Unis où la magie existe. Dernier point commun, derrière la magie et derrière l'amour, les romans abordent aussi des sujets de société forts et absolument pertinents. J'ai dit que les deux romans se passaient aux États-Unis actuellement et qu'il y a de la magie, mais les deux romans ne se passent pas dans le même univers. Dans How to Succeed in Witchcraft, l'humanité a découvert et maîtrisé la magie au XVIIIe siècle environ. Et la magie n'est pas secrète, elle a infusé toute la société et on l'apprend à l'école. Alors que dans Spells to Forget Us, c'est plutôt une urban fantasy, je vais dire, typique, dans le sens où la plupart des gens ne soupçonnent pas l'existence de la magie et les sorciers vivent parmi nous en secret. Dans How to Succeed in Witchcraft, on suit le personnage de Shay, une lycéenne qui est super déterminée car elle a un objectif, décrocher une bourse pour l'université, qui est décerné uniquement aux meilleurs élèves de chaque promotion de son lycée. Voilà. Et sa plus grande rivale dans cette ambition, qui est aussi en lice pour la bourse du coup, c'est Anna. Shay, au début du roman, elle a plutôt une attitude d'hostilité envers Anna, parce que voilà, elles sont rivales. La bourse de la meilleure université du pays, elle est financée par une famille riche dont un des membres se trouve être professeur au lycée de Shay et Anna. C'est de notoriété publique que c'est toujours son élève chouchou, à ce professeur Monsieur Brockton, qui décroche la bourse. Donc Shay et Anna, elles doivent impressionner Monsieur Brockton tout au long de leur année scolaire. Monsieur Brockton, il est prof de lettres, mais il s'occupe aussi du club de théâtre du lycée. Donc Shay, même si elle aime pas trop ça, elle participe à la comédie musicale montée par le lycée. Alors c'est le parfait moment pour vous expliquer comment est mise en scène la magie dans ce roman, parce que la comédie musicale, c'est représentatif de comment la magie a imprégné toute la société dans ce roman. Déjà, la comédie musicale qu'il monte, c'est une comédie qui s'intitule Brunxton Brooms, c'est-à-dire l'équivalent de notre West Side Story à nous. Sauf que là, où dans notre réalité West Side Story, ça a été adapté de Roméo et Juliette, dans le livre Brunxton Brooms, c'est adapté de Orgueil et Préjugé. Et Orgueil et Préjugé, dans ce monde, ça parlait de magie aussi, c'est-à-dire que Lizzie Bennet et Monsieur Darcy connaissaient la magie, parce que Jane Austen vivait à l'époque où l'humanité a commencé à maîtriser la magie. C'est une première touche que j'aime bien dans ce roman, que le fait que nos repères à nous, ils sont toujours parfaitement reconnaissables, mais juste ils ont une touche de magie en plus par rapport à notre réalité. Et il n'y a pas de raison que dans ce monde, Orgueil et Préjugés ne soient pas devenus un classique de la littérature. Par contre, ce n'est pas exactement la version que nous, on connaît. De même, les lycéens vont au Starbucks, mais ils y commandent des potions qui boostent l'énergie et pas des cafés. Ils réclament non pas un scooter à leurs parents, mais un balai volant, etc. Je reviens à la comédie musicale. Les effets spéciaux sur scène sont rendus totalement spectaculaires par le simple fait qu'ils peuvent utiliser la magie pour leur mise en scène. Les chorégraphies sont d'autant plus difficiles à apprendre qu'il faut apprendre à voler tout en gardant la synchronisation et bien atteindre ses marques au milieu des airs, alors que dans notre monde, ce serait plutôt un petit bout de scotch sur la scène. Bref, fin de la parenthèse sur la magie dans ce livre. Nos personnages, Shay et Anna, elles veulent donc toutes les deux impressionner leur prof de théâtre et passent donc du temps ensemble aux répétitions de la pièce. C'est comme ça que l'intrigue de la romance commence, elles apprennent à se connaître, c'est très mignon. Il y a quand même un risque dans cette relation parce qu'une seule des deux pourra obtenir la bourse. Donc un petit enjeu dans cette relation où forcément il y aura quand même une déçue, enfin au moins une déçue. Mais le cœur de l'intrigue de ce roman, ça se trouve dans le rapport que leur prof, Mr. Brockton, il entretient avec les élèves en lice pour la bourse. Comme il fait partie du jury qui va la décerner, il use de son influence sur les élèves pour les exploiter en volant leur magie. Et tout au long du livre, on peut voir pourquoi Shay tient tant à obtenir cette bourse. Elle voit bien que, malgré le niveau de magie de ses parents, ils galèrent quand même financièrement dans des boulots qui les exploitent. En même temps, les jeunes comme Shay sont bombardés de propagande libérale qui vend une méritocratie. Si tu travailles très dur, tu obtiendras des meilleures places, etc. Mais on voit surtout que ce libéralisme vulnérabilise les gens. Et c'est bel et bien parce que tout le contexte politique vulnérabilise les gens que les prédateurs tels que Mr. Brockton peuvent faire du mal aux personnes qu'ils ciblent. Le roman illustre pas simplement l'abus comme un rapport interpersonnel, mais comme un phénomène qui découle de la société dans laquelle les personnages évoluent. Et c'est pour ça que du coup, avant de vous parler du deuxième roman de Aisling Brophy, j'ai envie de vous proposer d'écouter Vampire de Olivia Rodrigo, parce que ça a un thème très proche sur la prédation et sur les rapports de pouvoir. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes.
Yeah.
c'était Vampire d'Olivia Rodrigo. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Julie venait de finir de nous présenter How to Succeed in Witchcraft, le premier roman de l'autrice Aisling Brophy.
La romance est beaucoup plus centrale dans le deuxième roman de Aisling Brophy, Spells to Forget Us. On suit Luna, qui est une sorcière de 18 ans, et Ifa, qui ne fait pas partie du monde magique et qui a 17 ans. Elles se rencontrent et tombent amoureuses. Et Luna jette un sort pour lever le voile qui cache la magie à Ifa, qui découvre alors que la magie est partout à Boston. Dans le monde magique de Luna, les personnes magiques ont en effet le droit de dévoiler l'existence de la magie à leurs partenaires non magiques, à condition que s'ils rompent, leur mémoire soit effacée. Luna, ce n'est pas n'importe quelle sorcière. C'est la sorcière la plus puissante de sa génération, mais sa magie est particulière. Elle doit toujours payer un coût équivalent au sort qu'elle jette. Donc, si Ifa oublie l'existence de la magie et leur relation si elle rompt, Luna oubliera Ifa aussi. Et ainsi débute une boucle temporelle. Elles ne cessent de se rencontrer, de tomber amoureuses, de se mettre ensemble et de rompre. D'oublier l'existence l'une de l'autre et de se rencontrer à nouveau, de retomber amoureuses, etc. L'enjeu du bouquin, c'est est-ce qu'elles vont réussir à rompre ce cycle en surmontant les obstacles à leur relation ? On pourrait se dire qu'on va s'ennuyer avec une prémisse répétitive comme ça, mais moi j'ai trouvé au contraire que c'était très bien mené parce que les personnages évoluent et elles ne sont déjà plus les mêmes la deuxième fois qu'elles se mettent ensemble, ni la troisième. Chaque itération est différente car le développement de chacune avance au fur et à mesure. Puisque Luna est la sorcière la plus puissante de sa génération, sa famille ne lui laisse pas le choix. Elle doit devenir la prochaine chef du Conseil magique de Boston. Ils ont trop travaillé et trop sacrifié pour que les personnes noires soient acceptées dans ce conseil, pour que Luna n'y soit pas. Sauf que Luna, ça la botte pas du tout. Mais la pression familiale, elle est extrêmement forte, et elle se fait aussi violente. Et l'arc de Luna dans le livre, ça va être ça, ça va être de gérer ses attentes familiales et ses propres envies à elle, et la violence de sa famille. Ifa, elle est connue sur Internet malgré elle, parce que ses parents sont influenceurs et la mettent en scène en ligne depuis son enfance, sans lui laisser le choix non plus, car tu comprends, Ifa, c'est notre source de revenus. On lui a appris à ne pas dire non, à sourire, à toujours préserver les apparences de la jeune fille modèle. Ça lui a sapé sa confiance en elle, parce que est-ce que les gens s'intéressent à elle parce qu'elle est bien mignonne et qu'elle ne dit pas non comme une poupée, ou pour ce qu'elle est vraiment. Car avec ses amis et avec Luna, on voit sa vraie personnalité qui n'est pas si lisse. J'avais envie de vous lire un extrait du roman qui illustre cette partie de la vie de Ifa. Alors, comme le roman est en anglais, je l'ai traduit moi-même, mais c'est une traduction amatrice et vraiment sans ambition. C'est juste pour vous montrer comment ces thèmes sont mis en scène dans le roman, mais ne faites pas attention au style d'écriture que j'ai forcément pas vraiment bien retranscrit. Et j'en suis navrée. Donc dans l'extrait que je vais vous lire, la narratrice c'est Ifa. Elle va mentionner Paddy, qui est son petit frère. Il y a Karim et Mika qui sont avec elle dans cette scène, qui sont ses amis. Et les merveilleux Walsh, c'est la page Instagram de ses parents influenceurs, pour vous poser les repères.
Je regarde mon téléphone. J'ai un message de ma mère qui me rappelle que notre shooting photo de Thanksgiving approche. Je pousse un long soupir fatigué. Les shootings photos pour les fêtes sont les pires. Maman se transforme en monstre de stress et Paddy est toujours en larmes ces jours-là.
Ça va ?
Me demande Karim. Oui, c'est juste... Je lui montre le message.
Ah ouais, chiant.
Le coin de sa bouche remonte dans un signe de compassion.
Je sais ce qui va te redonner le sourire.
Il prend son téléphone et me montre l'écran. Je vois une page Instagram que trop familière.
On n'a pas fait les merveilleux Watch Awards de la semaine dernière.
Dit-il en remouant ses sourcils. Ah mais oui, t'as raison. je dis en portant la main à mon torse. On doit aller faire maintenant, ma mère a posté des trucs hilarants. Karim a inventé ce jeu cet été, après que mes parents ont posté des photos de moi en bikini qui ont reçu une tonne de commentaires gênants. Il s'est dit que ça m'aiderait à aller mieux si on se moquait du contenu des merveilleux Walsh. On choisit chacun une publication, puis on défend pourquoi on pense que cette publication mérite d'être élue la pire de la semaine. C'est assez cathartique en fait.
Ok.
Dit Mika en sortant son téléphone de sa poche.
C'est parti.
On commence tous les trois à scroller la page Instagram des merveilleux Walsh, faisant défiler les photos qui sont assorties aux couleurs de notre identité visuelle, de moi et de ma famille.
Je choisis celle-là.
Dit Karim en montrant une photo de Paddy et moi, debout devant la baie vitrée. Je porte une robe blanche en mousseline avec des manches bouffantes et un énorme nœud jaune dans les cheveux. Je parais beaucoup plus innocente que dans mes vêtements habituels. Paddy porte une salopette bleue adorable. Il me tend les bras pour que je le porte. Je lui souris béatement comme la parfaite grande sœur affectueuse. En quoi c'est la pire, je demande, alors qu'il y a la publicité pour l'entreprise de puzzle personnalisable où on a tous fait un puzzle avec ma tête dessus.
Je choisis celle du puzzle,
dit Mika.
La pub pour le puzzle est hilarante,
admet Karim.
Mais celle-là, c'est l'archétype des merveilleux Walsh. C'est la IFA angélique typique.
Je fronce les sourcils confuses. Quoi ?
La IFA angélique ? C'est ton alter ego des réseaux sociaux. La fille parfaite que tous les parents rêvent d'avoir.
J'ai besoin d'un moment pour digérer ça, parce que c'est douloureusement juste. Mes parents ont vraiment fait de moi l'image d'une enfant angélique. Avec les palettes de couleurs cohérentes des photos, des blancs aériens avec des touches de couleurs primaires, avec toujours les mêmes formules dans les légendes, notre adorable Ifa, notre douce Ifa, notre belle Ifa. C'est mon visage duquel on a arraché ma vraie personnalité. La Ifa angélique est gentille avec son frère, sourit sagement et demande toujours pardon lorsqu'elle manque de politesse envers ses parents. L'enfant que les parents voudraient avoir. Idéal, mais pas vrai.
En plus, la légende a tous les mots-clés des merveilleux Walsh.
Continue Karim en les comptant sur ses doigts.
Élever des enfants avec un grand écart d'âge ? Check. Famille multiraciale ? Check. Le bonheur est un choix ? Check.
Oh, Karim a vraiment tout compris au projet de mes parents. Ok, oui, peut-être que c'est pire que la pub du puzzle. Karim gagne le jeu, comme d'habitude.
Donc là encore, Ashlyn Brophy, elle a écrit une histoire trop chouette et qui vient choper notre intérêt avec une histoire d'amour pleine de rebondissements et de la magie qui émerveille pour parler de sujets de société qui nous parlent à nous. Les deux protagonistes ont des parents négligents et qui voient leur enfant comme une ressource à exploiter et grandir dans un tel cadre familial, ça a un impact sur la façon dont les deux jeunes filles gèrent leur relation aux autres et donc leur relation amoureuse. Moi, ça m'a trop fait plaisir de découvrir Ashlyn Brophy et ses romans du coup. Déjà, je trouve que c'est de la bonne littérature ado. En plus, on y trouve de la représentation de personnages noirs et queer, avec même des personnages secondaires non-binaires que je soupçonne être des self-inserts de l'autrice, parce que leur description physique ressemble aux photos de Ashlyn Brophy que j'ai pu voir, mais enfin, je ne fais que des suppositions. Mais enfin, bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est très cool d'avoir des histoires dans lesquelles les ados noirs ou les ados queer peuvent se reconnaître, parce qu'il y en a encore trop peu. Et en plus, Ashlyn Brophy, elle leur offre réellement des histoires cool qui, je pense, restent avec nous après la lecture, qui offrent une vision du monde qui peut venir nourrir nos réflexions et les réflexions des lectrices ados. Et c'est vraiment des romans que j'ai envie de défendre.
Merci beaucoup Julie. Petit point définitionnel parce que self-insert, il n'y a pas encore si longtemps, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est self pour le soi, insert, inséré. Donc ça veut dire que l'autrice du récit va mettre de soi dans un personnage, un peu comme un avatar dans un jeu vidéo qui entrerait à la fiction. Voilà, le self-insert, c'est avoir un peu une facette de soi qui est dans l'œuvre, le récit ouais. Qu'on développe. Avec moi, c'est cette idée de « c'est une version de moi ». C'est vraiment un truc qui vient des écritures de fans d'hommes, etc. Donc les écritures des récits alternatifs ou développés par les fans. Voilà, les fanfictions, c'est ça le terme que je cherchais. C'est un terme qui vient plutôt de là, à la base. Et vraiment, merci beaucoup de ce partage, Julie. Moi, tu parlais du coup de ce que ça offrait aux ados racisés, mais je pense que ça sert aussi vraiment beaucoup aux ados blancs de se dire qu'en fait, ces personnes ne sont pas tant éloignées d'elle dans la mesure où la pression parentale, le capitalisme qui nous met en compétition et qui brise nos liens de solidarité, ça pour le coup, c'est assez universel. Donc c'est bien de pouvoir leur permettre d'être en empathie avec ces récits-là, tout en comprenant les particularités qu'ils traversent, parce que le côté de... on a enfin des noirs à la table du conseil, donc il y a double pression sur ta tête. Ça, voilà, ça ne déconnecte pas les personnages de leur spécificité, en fait.
Ouais, En fait, je disais, c'est trop bien d'offrir de la représentation aux ados noirs qui peuvent se voir dans un roman, mais franchement, ça ne veut pas dire que ça va parler que aux ados noirs, parce que moi, je suis une adulte et je suis blanche, donc... Et j'ai vraiment... vraiment beaucoup apprécié et oui, ça peut parler à tout le monde et c'est sûr
mais je pense vraiment qu'il faut défendre ces points là il y a qu'à voir les statistiques, là il y a le STEM-CGT il y a pas longtemps qui partageait un peu des chiffres, les auteurs ont des lectorats relativement mixtes alors que les autrices, elles, sont lues exclusivement, enfin très majoritairement, je crois que le chiffre c'est genre 87% du lectorat du top 10 des autrices, donc celles qui sont le plus vendues, c'est des femmes. Donc il y a quand même une problématique, tous les publics ne sont pas capables de s'ouvrir autant que les autres. J'ai fait il n'y a pas longtemps un micro-trottoir où les libraires me disaient que ils aimaient bien vendre des livres aux meufs parce que les meufs, elles étaient curieuses de découvrir d'autres choses. Là où le lectorat masculin était plutôt resté sur ses niches et ses zones de confort en fait.
Ouais, ça me parle ce que tu dis. Moi, je suis vraiment de team curieuse, team curiosité, de toujours aller découvrir plus de choses nouvelles. Et vraiment, je vous invite fortement à faire pareil, parce que je fais pas que des excellentes découvertes, mais depuis que j'élargis mes horizons, mais je prends un tel plaisir à la lecture de lire, voilà, des points de vue différents du mien, des gens qui ont une autre vision du monde, qui ont des expériences que moi je n'aurais jamais, et ça m'enrichit vraiment, donc soyez curieux
et soyez des influenceurs et influenceuses de proximité lors de Noël et autres réjouissances qui ouvrent des horizons. En parlant d'horizons, on va écouter un peu de musique. Je vous propose une reprise de Cécile Del Pollo et du groupe Enfin, je ne sais pas si c'est un groupe ou si c'est juste un seul musicien. Il me semble qu'ils sont deux à faire la musique. Donc, ça, on va dire que c'est le groupe Lancelot. Ce sont des gens qui opèrent habituellement dans le métal symphonique. Et là, ils nous offrent une reprise de Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Thank you.
la chronique BD.
La quoi?
Moi, j'ai rien compris à cette phrase.
Allez.
La chronique ta mère.
La quoi?
La chronique BD.
Ok.
Ce soir, je vais vous parler d'une BD éditée chez Casterman en 2024 qui a intégralement été écrite, dessinée, colorisée par Marie Spénal. Cette BD, elle s'appelle « Il y a longtemps que je t'aime ». Marie Spénal est une autrice et illustratrice qui a fait ses armes à l'école Estienne en DMA illustration puis au Gobelin en section multimédia. En 2012, elle se fait remarquer avec le prix Révélation Bloc BD du Festival d'Angoulême pour Les Limpes à Rose, ne le court plus dans les champs. Et oui, 2010, c'était les années de gloire des BD blogs, qu'est-ce que j'ai aimé cette époque. Elle illustre beaucoup d'histoires pour la jeunesse dans les pages de J'aime lire et Manon. Sur cette décennie, elle développe un style très cartoon, un univers coloré, et c'est dans cette lignée qu'elle va réaliser les ouvrages de Wonder Pony en 2018 et deux tomes de Millie et Katsu en 2023 et 2024. Des œuvres jeunesse qui connaissent un certain succès public et critique. Wonder Pony traverse l'Atlantique dès 2020 et se verra adapté en 2024 sur France Télévisions en série d'animation de 52 épisodes et 13 minutes. Quant à Millie et Katsu, le premier tome, l'Ultra Fiesta, figure dans la sélection jeunesse du Festival d'Angoulême. Mais Marie Spénal, ce n'est pas que ça. Moins remarqué et plus durement critiqué, il y a Heidi au printemps, paru en 2017 chez Delcourt. Marie Spénal y propose une adaptation assez libre du roman de Johanna Spyri. Je vous lis la quatrième de couverture. Le temps innocent des balades bucoliques dans les Alpes se termine. Heidi est désormais une jeune femme avide de découvertes. De son corps pour commencer, mais aussi de celui de Peter, le joli chevrier. Entre ses premières fois maladroites et un grand-père qui ne veut pas la voir grandir, entre les désirs et les angoisses, se dessine finalement une grande question. Comment devient-on femme ? Si cela n'était pas assez explicite pour vous, le devenir femme d'Heidi se jouera dans les premiers amours, dont la mise en scène et la représentation justifieront un accès réservé au lectorat majeur et vacciné. Ce sont des questions de corps, d'érotisme et d'émancipation auxquelles se confronte à nouveau Marie Spénal lorsqu'elle se lance sur ce projet qui va nous intéresser ce soir. Mais ces fois-ci, pas de petite fille. Dans « Il y a longtemps que je t'aime », on va suivre le personnage d'Annie, qui s'échoue sur une île tropicale. Elle s'y retrouve seule, livrée à elle-même, telle Robinson Crusoe, mais version femme sexagénaire en chemisier et collant.
Cher Alain. Alain. Alain, il se peut que je meure ici. Alain. Je suis actuellement sur une île. Il pleut souvent. J'ai trouvé une valise. Je me nourris des bonbons trouvés à l'intérieur. Il n'y en aura bientôt plus. Naufragé sur une île mystérieuse. Plage de sable. Climat tropical. Venez me chercher, s'il vous plaît. Je serais bien rentré, moi. Alain, je n'arrive pas à t'écrire, mais dans ma tête, c'est toujours à toi que je parle. Tu dois te dire que j'ai été bien bête de garder mes collants si longtemps. Oh, j'ai l'air négligé. Est-ce que je te ferais honte ? Tu rigolais de mes envies d'aventure. Je n'en peux plus de cette plage. Et regarde-moi. Ça y est. Je pars seul dans la forêt, enfin. C'est une petite aventure à 5 pas d'ici. Hein. Mais tu sais, ça me fait très peur. Tu avais bien raison de te moquer. Ça m'aurait rassuré que tu sois là à ricaner. Mais non. Alors, allons-y.
Tout au long de la BD, nous suivrons autant Annie que ses pensées, cette voix off incessante qui ne peut s'exprimer autrement qu'en s'adressant à ce mari absent. Alors qu'Annie progresse physiquement dans l'île, s'aventurant dans la forêt ou tentant d'échafauder une cabane, nous assistons aussi à une progression intérieure, celle de son introspection, où Annie va questionner son couple et son existence au sein de celui-ci. Une des originalités de la BD, c'est qu'elle met en scène un personnage de femme âgée. Dans la presse, Marie Spenel indique ne pas avoir perçu cet aspect original, l'âge de son personnage se voulant en premier lieu un indice sur la relation entre Annie et Alain. Ça fait longtemps que ça dure entre ces deux-là. Annie a l'air d'être une femme bien rangée, propre sur soi, peut-être un peu coincée, en tout cas pas très libérée. Ici, sur cette île, coupée du reste du monde social, elle va découvrir ce que c'est d'exister pour soi, sans regard ni jugement. Un premier pas fondateur dans cette aventure, c'est lorsqu'en pénétrant dans la forêt, elle tombe sur une roche noire au bord tranchant. Elle s'en servira pour se couper les cheveux, abandonnant ses mèches colorées qui s'en mêlent dans les branches et les lianes, pour une coupe courte qui ne cache plus son âge. Je ne peux m'empêcher d'y voir une référence au film de Ghibli où Hayao Miyazaki aime symboliser l'émancipation de ses héroïnes par leur coupe capillaire. La jeune Kiki qui se lance dans la vie indépendante à un carré au ras de la nuque, la jeune princesse Chiita se fera couper ses tresses à coups de pistolet quand elle arrêtera de fuir et se tiendra debout face à son ennemi. Sophie du château ambulant commence avec une longue tresse et beaucoup de crainte en elle. Elle confiera enfin ses cheveux à Calcifer lorsqu'elle n'aura plus peur de s'affirmer. D'ailleurs, dans un entretien accordé à Actua BD, Marie Spenel mentionne Miyazaki comme inspiration importante pour créer cette histoire.
L'inspiration de Hayao Miyazaki concernait surtout son processus de travail. Il n'est pas quelqu'un qui structure beaucoup son histoire, qui ne pense pas au début, aux péripéties, à la fin. Il a plutôt des visions de scènes, cherche des scènes qui pourraient être intéressantes, et ensuite essaie de les faire fonctionner ensemble. En espérant cela, j'ai essayé de construire mon récit de la même manière, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus réaliste, plus basé sur les émotions et les interactions entre les personnages que sur un fil rouge qui serait important tout du long de l'histoire.
Et oui, vous avez bien entendu. Marie Spenel parle d'interactions entre les personnages au pluriel. Annie ne va pas rester toute seule. Alors qu'elle progresse doucement dans cette forêt dont la flore comme la faune ne cesse de l'étonner et de la surprendre, Annie va alors apercevoir une silhouette humanoïde qui se balade avec insouciance et légèreté dans la canopée.
Mon Dieu ! Un indigène ! Tu te souviens ? Je voulais vivre des choses. Je t'embêtais avec mon idée abstraite, avec ces aventures que je ne savais pas définir. Je pense que filer un arborigène sur une île déserte, c'est ce qui se rapproche le plus de l'essence même d'une aventure. Sur le principe, j'ai donc eu raison de nous embarquer dans cette croisière. À la réflexion, ça a même un peu trop bien marché. J'ai faim, j'ai froid, j'ai mal. Je vis actuellement dans un roman de Jules Verne. Mais je te parle au lieu d'être tout à fait là. 3 jours plus tard, il n'a toujours rejoint aucune tribu. Il est peut-être seul. Il n'a pas l'air d'aller quelque part. Ni même de bien connaître la forêt. Je ne pense pas qu'il soit dangereux. Il donne plutôt l'impression d'être extrêmement heureux. Qu'est-ce que ça doit être bien, cette vie ? Il ne se pose jamais de questions. Il s'allonge quand il est fatigué. Un lit de mousse lui suffit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là ! Eh bien ! A-t-il été abandonné à la naissance ? Un enfant sauvage local ? Pardon Alain, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'observer. Et un homme si bien bâti n'aurait pas à se débrouiller seul normalement. toi? Que deviens-tu? Je ne veux pas dire... Enfin, pas spécifiquement à ce propos. Je te manque? Et comment? Bien sûr que tu me manques. Je m'ennuie sans toi. Reviens-moi, Annie. Voilà le genre de réponse que tu me donnerais. Je te crois, mais... Est-ce que, par hasard, je ne te serais pas indispensable de la même manière que la vis de ta chaise? Sans moi, peut-être que tu tombes. Mais penses-tu parfois à ma présence? Une autre vis ne ferait-elle pas tout aussi bien l'affaire? Ouais, je suis injuste. Tu objecterais. Tu es une vis qui va quand même particulièrement bien avec ma chaise. La même couleur. Regarde. M'as-tu remplacé? Tu n'aurais pas de difficulté, mais ça ne fait pas si longtemps. Et tu as le sens des convenances.
Cette âme que Annie qualifie d'indigène se présente à nous comme un jeune éphèbe. Sa peau est bronzée, ses cheveux noirs sont lâchés en bataille. Il est jeune, svelte, souple, lascif. À travers le regard d'Annie, nous l'observons nous aussi, ce corps et sa totale altérité. Il est tout ce qu'elle n'est pas. Au point où la logorée d'Annie va se confronter au mutisme de ce jeune homme. Il incarne une façon d'être au monde, dans le « ici » et le « maintenant », qui échappe au verbe et à l'intellectualisation. Petit à petit, les personnages vont tous les deux se rapprocher. Le régime de l'observation et de la traque va alors laisser place à celui de l'interaction et de la découverte. Et alors qu'Annie se rapproche de ce silencieux et mystérieux jeune homme, elle finit elle aussi par goûter au silence et au laisser aller. Je pense à cette longue scène muette où il l'emmène se baigner. Page 66. L'eau est opaque. Annie se laisse tenir les mains. Case 2, le jeune homme est de dos et s'enfonce dans l'eau sans lâcher la main d'Annie qui reste derrière lui. On la devine en transparence sous les remous de l'eau. Case 3, contre-plongée, Annie s'enfonce dans l'eau à sa suite. L'eau révèle ses décors et ses poissons. Case 4, gros plan sur les jambes d'Annie. Elle est en mouvement. Sur toute la page, on devine le mouvement de l'eau quand les corps la pénètrent. Page suivante, la construction est très symétrique, donnant une impression d'harmonie. Les deux premières cases se répondent en miroir. Annie y interagit avec les poissons qui l'entourent et sourit au jeune homme. Elle se laisse aller. Troisième case, qui prend toute la largeur de la page, Annie et le jeune homme se tiennent la main. Leur corps s'élance vers la droite. Ils progressent dans l'étendue aquatique. Les trois dernières cases fonctionnent en triptyque. Une libellule piégée dans l'eau, les mains d'Annie jointes en coupole qui viennent la sauver, et puis la libellule posée sur le doigt d'Annie, qui élève sa main devant le visage du bel éphèbe. Sur cette page, les deux personnages se fondent dans le décor. Leurs corps ne sont plus les seuls éléments que l'on va distinguer sur l'eau, ils sont entourés par la végétation et les poissons. L'autre focus de cette page, ce sont les mains qui se tiennent, les mains qui se contiennent, les mains qui entrent en contact avec les éléments. On tourne la page, le jeune homme se regarde dans l'eau. Il a l'air d'aimer ce qu'il y voit, ce petit narcisse. Annie contemple elle aussi son reflet, mais le sourire n'est plus là. Le « ici et maintenant » se dissipe. L'esprit d'Annie s'en va dans ce souvenir lointain aux couleurs pastel. Elle se revoit tirer violemment les rideaux pour être sûre que personne ne verra ce qui se passe dans la chambre à coucher. Elle veut cacher son corps de vieille femme, dissimuler les rides sur son ventre. Son mari ne comprend pas. Pour lui, un corps est un corps. Tant que ça fonctionne, c'est que ça va. Mais bon, Alain n'a pas l'air de trop savoir ce que ça implique le patriarcat et la misogynie intériorisée. Et si ces mots savants et compliqués n'apparaissent pas en tant que tels dans la BD, il est indéniable qu'Annie est en plein dedans. S'ensuit alors cette scène, marquant la fin du silence, où les corps sont tout entiers laissés à leurs sensations. C'est le retour du monologue introspectif.
Un corps est un corps, c'était très clair. Nous faisions régulièrement l'amour. Une solide moyenne de 2 fois par semaine. Ton sens des convenances, même de celles qui ne se disent pas. Et moi, je suis poli, tu sais. Je m'en serais voulu de te faire de la peine. Regarde le cœur que j'y mets pour ne pas... Pour te protéger. Pour garder ma place. Tu me connais, tu m'as connu. Peux-tu être dupe? Mais ce sont des moments, les seuls, où je préfère douter de ton intelligence. Ce n'est pas horrible, le corps fonctionne. Mais d'où vient ton impulsion? Est-ce que tu me veux? Ou est-ce que tu veux? Et je suis là. Les choses s'enchaînent et font rouler ta vie. Elle ne s'arrête jamais, ne fait pas de virage sec ni de demi-tour. Te poses-tu parfois des questions? Je crois que je ne suis qu'une pièce de ta machine. Pourquoi certains jours ça me rassure, mais que tous les autres, je me demande comment faire pour que mon existence touche la tienne.
Au-delà du texte dont la poésie ne peut plus vous échapper, Il y a longtemps que je t'aime travaille également les émotions et la sensibilité à travers ses dessins et surtout à travers sa couleur. Les traits sont épurés et lâchés, Maryse Pénal travaillant un dessin qui va à l'essentiel. Le réalisme cède du terrain face à cet exercice d'abstraction. Toujours dans l'entretien pour Actua BD, l'autrice illustratrice se confie sur ses inspirations visuelles.
Les artistes qui sont revenus régulièrement incluent Matisse, par exemple, pour les visages, les plantes, entre autres. Mais aussi, du côté du manga indépendant, des artistes comme Kyoko Okazaki ou Fumiko Takano qui ont des traits très lâchés, qui peuvent parfois virer à l'abstraction, être un peu moins terre-à-terre, un peu moins scolaire que moi-même, ce que je peux être parfois dans mon travail. C'est vraiment cela que j'ai essayé de viser en tout cas.
Et on peut dire qu'elle a touché au but. Cette apparente simplicité et cette économie du tracé permettent une grande expressivité qui nous atteint avec force. Cela donne également beaucoup d'énergie aux lignes de corps et aux mouvements des personnages. Mais il y a aussi cet aspect de liberté. Les décors de l'île évoquent une nature tropicale, chaude, exotique. Mais elle n'est pas rigoureusement réaliste. Elle donne un sentiment d'étrangeté et de surnaturel. Mais cela ne se joue pas que dans les formes, puisqu'il y a bien sûr la couleur.
Nous avons eu l'idée de créer un album en utilisant du rose fluo et en les incorporant aux autres couleurs. Ainsi, toutes les couleurs sont légèrement modifiées. Les orangés deviennent plus vifs, les mauves aussi. Cela crée une gamme de couleurs un peu inhabituelle et surprenante par rapport à d'habitude. L'idée était de faire en sorte que cela accompagne l'exploration de l'île, qui est un univers pas tout à fait réaliste. Il s'y passe des choses étranges, il y a des animaux particuliers, des phénomènes surprenants, etc. C'est donc pour renforcer cet aspect un peu fantasmagorique. J'adore la couleur, donc il était très important pour moi d'avoir des variations de lumière, des ambiances différentes d'une page à l'autre pour qu'il y ait une surprise, une découverte à chaque fois.
Et là encore, le pari est réussi. Chaque scène nous emmenant dans une ambiance toujours très colorée, très chamarrée, mais continuellement différentes. On retrouve bien entendu le rose fluo qui va beaucoup se retrouver associé à des gammes de bleu lors des scènes où Annie imagine son mari ou se rappelle de sa vie conjugale avec lui. Les scènes sur les plages et les forêts de l'île sont marquées par les fameux oranges vifs, mais les paysages restent variés en fonction de l'horaire. Plus de mauve dans la nuit, plus de lumière en journée, et il y a également les spécificités topographiques. La forêt est loin d'être homogène. Lorsque la végétation est plus dense, les verts sombres s'affirment. Lorsqu'on est en lisière, ce sont les jaunes qui dominent. Et lorsqu'on se rapproche du volcan, on a un noir de jais sur lequel tranchent le rose et les oranges des chairs. Dans ce dernier extrait, les chairs d'Annie et de son sorte de vendredi vont se rapprocher de la caverne au cœur du volcan.
Je ne suis pas si niaise. Je peux entendre que ces histoires d'amour étaient des contes pour jeunes filles, que je dois arrêter d'y croire. Mais qui voudrait de la réalité ? Tu vas être si beau. Je ressens pour toi tellement de tendresse et de désir. Tout ce que j'ai voulu mettre autour de ces sentiments par le passé, ça les a étouffés. Je t'aime parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Je te sens en moi comme une chair chaude, comme une preuve d'autre chose. Je me sens autour de toi comme du désir, pas comme des racines desséchées et affamées. Je t'aime maintenant, et en être enfin capable, c'est comme respirer après avoir bu la tasse.
Cet extrait ressemble à une fin de BD et une conclusion de récit, et pourtant, il reste encore une trentaine de pages dont je ne peux vous parler sous peine de ruiner votre expérience de lecture. Et pourtant, il y a bien un élément qui ne m'a pas happé tout de suite en lisant cette BD, mais que j'aimerais vous parler parce qu'il est là comme un grain de sable dans la chaussure. Un élément qui mérite d'être discuté à la lumière des événements finaux de la narration, car il y a un petit plot twist qui rebat les cartes de ce récit. Mais toujours est-il que sur une BD de 120 pages, c'est en majorité sur les 90 premières que Annie nous donne à voir et à regarder ce qu'elle appelle elle-même un indigène. On l'a dit, il est construit comme une altérité complète, ce personnage. Annie est vieille, il est jeune, elle est blanche, il a la peau colorée. Nous le voyons à travers ses yeux à elle, et on peut se demander à quel point ce regard peut devenir exotisant, voire essentialisant. Matisse était cité comme référence visuelle pour les visages de Maryse Pénal, et je ne pense pas que ça soit tout à fait neutre. Matisse, il fait partie de ces artistes qui, début 20e, ont eu leur période orientaliste, suite à des voyages au Maghreb ou dans d'autres îles dites paradisiaques pour ne pas dire coloniales. Et l'orientalisme, c'est pas juste un style pictural qui est joli. Selon Edward Said, le premier à conceptualiser ce terme en dehors du champ esthétique, l'orientalisme se caractérise par un regard eurocentrique sur l'Orient. Un regard qui va scléroser les représentations de l'Orient comme une entité figée, immuable, homogène et stéréotypée, construite en creux de l'Occident. Dans l'ouvrage « L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident » en 1978, Saïd prend pour exemple Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie.
Lawrence s'attache à l'Arabie du point de vue de quelqu'un pour qui cette simplicité naïve et primitive que possède l'arabe est quelque chose de défini par l'observateur, ici le blanc.
On peut donc se demander sincèrement à quel point Annie n'est pas un pendant de Lawrence d'Arabie. Cela m'a conduit à revenir à la définition du female gaze, concept travaillé notamment par Iris Bray dans Le regard féminin, une révolution à l'écran. Dans cet essai, Iris Bray explique en quoi le female gaze permet de ressentir à l'écran l'expérience féminine dans sa pluralité. Elle écrit
« Il faut narrativement que, premièrement, le personnage principal s'identifie en tant que femme. Deuxièmement, l'histoire soit racontée de son point de vue. Troisièmement, son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Il faut, d'un point de vue formel, que, premièrement, grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressente l'expérience féminine. Deuxièmement, si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé. Troisièmement, le plaisir des spectateurs ou spectatrices ne découle pas d'une pulsion scopique, prendre du plaisir en regardant une personne en l'objectivant comme un voyeur.
Et si les 5 premiers points sont tout à fait là, c'est-à-dire que oui, on embrasse tout à fait le point de vue d'Annie, on a une remise en question de l'ordre patriarcal parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur sa vie conjugale et la place dans laquelle elle s'est mise dans cette relation-là, ou dans laquelle elle a été mise. La mise en scène reflète plutôt bien son expérience à elle, et l'érotisation est tout sauf gratuite, mais pour autant, cette pulsion scopique vis-à-vis du « entre guillemets indigène » pose question. Et je parviens pas vraiment à trancher, parce que bah, justement sur ces 30 dernières pages, on se verra que le regard d'Annie manquait peut-être d'informations pour être tout à fait objectif et avoir une compréhension complète des événements. Donc si vous avez lu cette BD, chers auditeurs, chères auditrices, et que vous avez un avis à partager, surtout n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aller sur la page de l'émission depuis le site de Scilab et vous retrouverez notre mail ou notre compte Insta si vous voulez en échanger. Voilà, c'était tout pour cette chronique bande dessinée. Un grand merci à Sylviane qui a prêté sa voix au personnage d'Annie et que vous avez entendu tout au long de l'émission.
Ça m'interroge beaucoup, du coup, cette fin mystère que je ne connais pas. Mais du coup, j'ai vraiment une question, mais vraiment la question la plus simple possible. Mais du coup, t'as aimé la BD ou est-ce que la fin te fait avoir un avis plus mitigé? Parce que je comprends pas...
En fait, voilà, c'est plus une BD qui bouscule, je dirais. Il y a des choses que je trouve très plaisantes, vraiment les couleurs ou le dessin, ils sont vraiment très plaisants, ils sont très chargés, donc il y a vraiment toujours des petits détails sur lesquels s'arrêter. Donc là-dessus, c'est possible de relire cette BD, de toujours découvrir des choses et de vraiment apprécier son style graphique et esthétique. Et après, sur l'histoire, dès le premier abord, j'ai été un peu désarçonnée, notamment avec les scènes érotiques, en fait. Je m'attendais pas à voir ça, je m'attendais pas à ce que l'émancipation d'Annie passe par là, même si ça fait complètement sens que ça soit le chemin qu'elle prenne. Qu'elle prenne, parce qu'on va comprendre très vite qu'il y a, voilà, c'est un peu cette dissociation entre le corps et l'esprit, et que bah, pour elle, en fait, revenir à ses sensations et à son corps et à son plaisir, c'est un peu la seule voie possible pour elle, pour aller tais-toi le cerveau, arrête de tout intellectualiser et juste vis et ressens l'instant présent. Et pour autant, bah, c'est après plusieurs lectures et en écoutant en parallèle des choses plus post-coloniales et sur l'orientalisme, etc., que je me suis dit, mais c'est vrai que là, Annie, on est vraiment sur la petite femme blanche qui va consommer, entre guillemets, une figure de petit colon. Alors, on va se rendre compte qu'il y a des moments où ils sont pas si éloignés que ça. Peut-être que lui, ça fait plus longtemps qu'il est sur l'île et que c'est pour ça qu'il est plus bronzé qu'elle. Quand on est dans le volcan et qu'il y a cette scène d'amour entre eux, leur chair à tous les deux prennent un rose fluo qui est très très proche. Donc, ils sont pas si étrangers l'un à l'autre. Mais toujours est-il qu'au début, on a Annie qui est un peu posée en Robinson Crusoe, qui va rencontrer un vendredi sauvage, jeune, beau, muet, etc. Et donc,
oui,
c'est quand même...
le regard qu'elle pose sur ce personnage-là qui est... quelque part, peu importe s'il est de cette île ou s'il est naufragé quand même, peu importe son origine ou quoi, c'est le regard qu'elle pose sur lui qui l'orientalise.
C'est ça. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on a pris le trope de l'île naufragée en dehors du monde, etc., je pense que c'est un petit peu impossible de ne pas être dans cette espèce d'exotisation. Et je pense aussi que c'est une des questions que va devoir affronter Annie. Est-ce qu'en dehors de ce monde coupé de toute la société, elle est capable d'être elle-même? Elle y arrive finalement sur cette île. Mais est-ce qu'en rejoignant le monde de la société, entre guillemets, réelle, c'est possible pour elle d'exister pour elle-même? Ça... Quand j'arrivais à ce stade de ma réflexion, je me posais beaucoup de questions, par exemple, vis-à-vis des prisons, des hôpitaux psychiatriques, où on retire les gens du monde pour, entre guillemets, les réparer ou les soigner. Mais en fin de compte, est-ce que ces gens vont être fonctionnels dans le monde social, une fois qu'ils sont sortis de ces espaces d'isolement? Bah, pas si sûr. Mais bon, la BD, là-dessus, elle laisse beaucoup de place au lectorat pour mener ces histoires-là, ces réflexions-là, etc. Je pense pas qu'elle les porte elle-même, mais plus qu'elle est très focalisée sur son personnage principal. Et bah, si on embraye dans ce récit avec ce personnage principal, on va arriver à ces questions-là, en fait. On va écouter une dernière pause musicale, et qui d'autre que Julie pour nous annoncer cette chanson?
On va écouter À la plus haute branche de Céline Dion.
Une reprise de À la claire fontaine, d'où vient directement le titre de la BD. Et bisous aux mamans.
À la claire fontaine, m'en allant promener. plus hautes branches. Parmi les fruits du marronnier, on dirait que tu te balances. Je t'aperçois et je perds pied. Même si plus rien n'a d'importance, as-tu au moins trouvé la clé qui nous redonne notre enfance et nous fout rire des colliers. Cette nuit, c'est laisse-le à l'abri des hommes te bercer près de moi. Il y aura bien sûr un malaise, une brève hésitation au moment de placer les chaises pour le repas du réveillon. Tu vivras dans tout nos silences, au hasard des conversations. J'apprivoiserai ton absence, mais je ne dirai plus ton nom. Cette nuit, c'est le vent d'automne qui te bercera. Laisse-le près de moi.
Avant qu'on se quitte, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même jour, lundi à 19h. On va vous proposer de découvrir Sabrina Erindjin, plus connue sur les internets sous le pseudonyme Olympe Rêve, où elle produit de la critique médiatique avec un focus sur le droit judiciaire, pénal, etc. et féministe. Elle a publié cette année aux éditions Le Duc un essai dont nous parlerons avec une bonne compagnie. Je vous garde encore un peu la surprise, mais ce livre en tout cas, c'est « Faire taire les femmes quand la justice bâillonne les femmes et protège les hommes ». Sabrina Erindjin étudie les manœuvres juridiques qui nourrissent la justice bâillon, sources et chiffres à l'appui, et on a très hâte de vous en parler. À bientôt sur les ondes, ciao ciao.